La semaine aura débuté dans l'émotion de la double canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II en présence de deux papes, le pape François et le pape émérite Benoît XVI, signe visible d'une église en communion. Le cardinal Gérard Cyprien Lacroix, archevêque de Québec au Canada, en témoignait.
C'est un événement unique dans l'histoire. Moi, j'appelle ça, comme bien d'autres d'ailleurs, le dimanche des quatre papes. Deux papes au ciel, deux nouveaux saints, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II, et deux papes ici sur la terre, sur la place Saint-Pierre. C'est unique dans l'histoire de l'Église. Moi, j'ai été très ému de vivre cette célébration. D'abord, j'ai trouvé la foule très priante, joyeuse et priante. C'était une fête, c'était très festif, mais très recueilli et priant en même temps.
Et alors que l'on célébrait dimanche les canonisations, des actes de violence et de vandalisme antichrétiens étaient perpétrés le même jour en Galilée, et cela à un mois de la visite du pape François en Terre Sainte. Le lieu saint de Tabgha, au nord du lac de Tibériade, a été profané, comme l'église orthodoxe d'Albassa, au nord-ouest d'Israël. Le même dimanche, Mgr Marcoutz, au vicaire patriarcal en Galilée, recevait une lettre de menace. Il nous disait que ces actes sont non seulement des atteintes aux signes religieux, mais surtout aux fidèles.
Il y a une intolérance vraiment antichrétienne insupportable. La police en Galilée est en train de réagir maintenant parce que vraiment nous avons peur que cet esprit se répande et il puisse devenir incontrôlable après un certain temps. Notre vie en Israël est basée sur l'acceptation mutuelle, sur la coexistence pacifique. Et si nous mettons en danger ce fait et cette réalité, ce sera vraiment très inquiétant pour l'avenir.
En Irak, les problématiques ne manquent pas. Chômage, corruption, services publics défaillants et surtout un contexte de violence jamais atteint depuis le départ des troupes américaines en 2011. Cette semaine, 20 millions d'Irakiens élisaient leurs députés, première législative depuis ce retrait américain. Afin de limiter les attaques et les attentats, les autorités avaient décrété 5 jours fériés. Contenir la violence, est-ce possible quand les djihadistes s'en prennent à des policiers également sunnites? Nous posions la question à Myriam Benrad, chercheur associé au CERI.
Il y a effectivement des sunnites qui s'en prennent à des sunnites, puisque de la même manière que les salafistes considèrent les chiites et les kurdes comme les collaborateurs de l'ancien occupant et donc des leaders illégitimes, ces mêmes salafistes s'attaquent aux sunnites qui ont osé prendre part à la transition et plus particulièrement donc aux sunnites membres de l'armée, des forces de sécurité, mais aussi aux dirigeants politiques qui ont rejoint le gouvernement de Maliki. Et cette mouvance djihadiste s'en prend aussi à certaines tribus dont les membres s'étaient alliés aux forces américaines et qui aujourd'hui combattent aux côtés de Maliki. Ces tribus sont réputées traîtres à la cause des djihadistes et aussi les victimes d'une campagne d'attaque qui en réalité a cours depuis plusieurs années.
Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, est élu en Algérie, envoyé spécial du pape François pour le centenaire de la consécration du sanctuaire Saint-Augustin d'Hippone. Hélène Détombe l'avait rencontré juste avant son départ pour ce voyage algérien.
Il faut se rendre compte que dans un pays comme l'Algérie, la mission de l'Église, c'est d'être présente. La seule présence est déjà quelque chose. Ce sont des petites communautés qui témoignent, là où elles vivent, de la foi chrétienne, et qui sont très appréciées. En particulier, je sais que les bibliothèques dans les quartiers qui sont tenues par des religieuses libanaises que j'ai connues autrefois sont très appréciées par toute la population. Le dialogue interreligieux est une question de survie de la société. On ne peut pas vivre les uns contre les autres, on va vivre les uns avec les autres et construire ensemble un monde meilleur.
Et comment oublier la Centrafrique? Les musulmans sont la cible toujours des attaques des milices anti-Balaka composées de chrétiens. Et malgré les appels au calme lancés à plusieurs reprises par les chefs des différentes communautés religieuses, rien n'y fait. L'espoir d'une réconciliation nationale semble bien s'évanouir, ce que confirmait vendredi Thierry Vircoulon, directeur pour l'Afrique centrale de l'International Crisis Group.
C'est la fin des espoirs de réconciliation nationale, mais quand vous discutez avec les musulmans, leur discours était extrêmement clair. Premièrement, ils ne se sentaient pas en sécurité là où ils étaient, et deuxièmement, ils ne reviendront que lorsqu'ils se sentiront en sécurité. Donc la sécurité reste le paramètre essentiel de toute réconciliation en Centrafrique.
Alors que samedi, on célébrait la journée mondiale pour la liberté de la presse, nous avions choisi de parler de l'Ukraine, où la situation de crise entraîne aussi une dégradation de la situation de sécurité pour les journalistes. Ils travaillent dans des conditions toujours plus extrêmes, notamment à l'Est, comme nous l'expliquait Johan Beer, responsable du bureau Europe de l'Est, Asie centrale, à Reporters sans frontières.
C'est particulièrement autour du bastion des milices pro-russes à Slaviansk que la situation est hors de tout contrôle. Pour nous, la ville de Slaviansk et les environs est en train de devenir un triangle des Bermudes de plus en plus imprévisible où la sécurité des acteurs de l'information n'est plus garantie. Médias et journalistes sont la cible d'attaques quotidiennes exacerbées par la violente guerre de l'information que se livrent les médias russes et ukrainiens. Donc sur place, au quotidien, ce sont des agressions de journalistes qui couvrent des manifestations, ce sont des médias pris à partie et notamment les centres de télétransmission dans toute la région de l'est de l'Ukraine ont été pris d'assaut par des sympathisants pro-russes, donc notamment à Donetsk et Lugansk depuis le week-end dernier. Et les chaînes nationales ukrainiennes ont été déconnectées et remplacées par les chaînes nationales russes. Véritablement, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre au cœur de laquelle se trouvent les journalistes et les médias, et c'est une situation que nous jugeons très inquiétante.